et bienvenue sur Europe 1 dans l'émission Les Athlètes de Dieu. Dans cette série d'entretiens, je rencontre des sportifs d'exception, des passionnés de sport, mais aussi des chercheurs de Dieu. Tous ont un point en commun, leur foi chrétienne, qu'ils considèrent comme une force motrice dans leur quête de performance et leur équilibre mental. Pour la première fois, ils acceptent de partager sur Europe 1 cette dimension intime de leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une véritable légende du football, Olivier Giroud. À 39 ans, le célèbre attaquant possède l'un des plus beaux palmarès de son sport. Champion de France et d'Italie, vainqueur de l'Europa League, de la Ligue des Champions et bien sûr, au sommet de tout cela, le titre de champion du monde remporté en 2018 avec l'équipe de France. Olivier Giroud est aussi, encore aujourd'hui, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Grand attaquant, par la taille comme par le talent, il est souvent décrit par ses coéquipiers comme un véritable grand frère, quelqu'un de toujours disponible pour écouter, conseiller et soutenir. Mais au-delà du football, Olivier Giroud est aussi un homme de foi, un athlète de Dieu.
Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1 avec le soutien d'Oli Games.
Bonjour Olivier Giroud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous de l'invitation.
Et en fait, c'est presque vous qui nous invitez parce que nous sommes dans une église, dans un endroit assez exceptionnel à Wascal, où des chrétiens se retrouvent pour prier.
Olivier. C'est ça. J'ai eu l'occasion de venir, il y a quelques temps de ça, venir prier, assister donc un culte. Et j'aime beaucoup l'atmosphère et... l'ambiance qui règne.
On a été très bien reçus d'ailleurs par deux pasteurs merveilleux. Et nous sommes également avec un aumônier des sportifs que vous connaissez, qui est Jean-Luc Sergent. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Et vous allez nous éclairer, parce que l'évangile, vous connaissez très bien. Donc ça va être utile.
Je n'ai jamais trop.
Ça va être utile. Alors, la tradition, on va commencer, Olivier Giroud. On vous rappelle que dans cet entretien que nous organisons avec Oli Games, qui est le mouvement de l'Église catholique qui a été créé pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, pour accompagner les sportifs, eh bien, nous allons vous poser un certain nombre de questions, savoir si vous avez un lieu particulier pour vous ressourcer, un saint ou une figure qui vous inspire, une phrase de l'évangile qui vous est chère et une musique qui vous apaise. Mais donc la tradition, c'est que vous avez quatre bougies, Olivier Giroud, en face de vous. Elles sont de couleurs différentes, il y a des phrases de l'évangile et vous allez choisir la première bougie de cet entretien.
Eh bien allez, on commence par la jaune. Puisez votre énergie dans le Seigneur. Éphésiens 6, verset 10. C'est ça ?
Ouais. Elle est belle, cette phrase. Puisez votre énergie dans le Seigneur. Et moi, j'ai l'impression que ça résume un peu votre vie, votre foi et ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant.
Toujours puiser mon énergie, ma force. Je le répète, ma foi, ça a toujours été ma force intérieure et... Et le Seigneur est mon rocher, notamment. Voilà, quand je suis seul et que j'ai besoin de lui parler, et de reprendre de l'énergie justement et de la confiance et de la sérénité. Je prie, j'étudie la parole, notamment avec Jean-Luc, que je connais depuis plusieurs années maintenant. Et c'est un peu ça, le calme, la confiance, l'énergie spirituelle. C'est un beau verset.
Et ce qui est exceptionnel aussi, c'est votre force de témoignage qu'on retrouve chez les chrétiens, notamment chez les évangéliques, qui ont cette capacité à aller parler de Dieu, ce qui n'est pas simple. Et est-ce que vous vous souvenez, Olivier, de la première fois que vous avez témoigné, ou en tout cas, est-ce qu'il y a eu un moment de bascule où vous avez dit « maintenant, j'assume et je vais le dire » et vous le dites très bien, notamment dans les médias. Quand vous remerciez par exemple par un but, souvent, ouais. vous nous avez dit en conférence de presse « c'est grâce au Seigneur, grâce à Jésus ».
Ouais, j'ai tendance à toujours lever les doigts vers le ciel pour lui rendre grâce. Rendre grâce au Seigneur, à Dieu qui veille sur moi et qui m'a fait, qui m'a donné ce don dès le plus jeune âge d'avoir quelque chose en particulier et de l'exploiter pour après en avoir fait mon métier. Et je suis reconnaissant évidemment de cette chance que j'ai. Je pense que j'ai été si quelque part choisi. Je me considère comme un enfant de Dieu et je pense que j'ai une bonne étoile, pour ainsi dire, au-dessus de ma tête et en qui j'ai une confiance aveugle. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai vécu dans ma carrière. Et je le partage avec les plus jeunes aujourd'hui dans le vestiaire. Et je ne me rappelle plus de la première fois où j'ai parlé de ma foi, mais je l'ai fait à maintes reprises. Je me souviens qu'il y avait eu un...
Moi, je me Jean-Luc. Souviens d'une anecdote, c'était sur Sport 24, le Figaro. Il y avait cette photo où tu lisais, le livre.
Un moment avec Jésus, ça c'était en 2016. Jésus.
2016. Ouais. C'est comme ça que, petite histoire, c'est comme ça que moi j'ai vu, parce que j'ai lu cet article, j'ai dit, oh, tiens, c'était écrit catholique, ouais, chrétien, et j'ai voulu rentrer en contact avec toi.
J'étais dans ma chambre à Clairefontaine,
il y a 10 ans.
Ouais, il y a 10 ans de ça, voilà. Ouais,
incroyable.
Il y a 10 ans, et un bon anniversaire, quelques mois après. Voilà, c'était, j'étais avec Guillaume Bigot, certainement, celui qui s'occupe de la com. À la Fédé, ouais, à Clairefontaine, et donc il avait pris une photo de moi. Il avait dû transmettre une photo de moi, pour le Figaro. Assis, j'ai bien la photo en tête, assis dans mon lit en train de regarder ce bouquin que je crois que c'est Joël
ta mère,
qui m'avait offert, ou ma maman. Ouais, ça doit être maman. Pardon, maman.
Ah bon, on embrasse maman, bien sûr, qui a eu un rôle important.
Prépondérant, bien sûr.
D'abord parce que c'est votre maman et que les mamans, elles sont uniques.
Bien sûr.
Mais aussi pour la foi, pour la transmission.
Tout à fait. Ma maman, à la base, on est issus d'une famille catholique. De par l'éducation et puis le côté un peu... côté italien.
De
grand-mère italienne. Et donc, ma maman a grandi avec des valeurs. Elle allait à l'église. Côté religieux, vraiment catholique. Et après, elle a découvert un jour le côté protestant. Et donc, elle a commencé à fréquenter une église Champfleury, qui se situe à Champs-le-Haut. C'est juste au-dessus. Oui, c'est précis. Hein. C'est la commune de Champré-Frauges. Champré, donc de Frauges.
Ah oui,
là où j'ai grandi,
voilà,
38.
Voilà,
et donc, j'allais moi-même aussi faire des colos là-bas. Et c'est là où j'ai été un peu initié à la foi chrétienne et notamment à protestant évangélique.
Et c'est là que ça a commencé, Olivier, que vous avez découvert Jésus, que ça a été le terreau. On a commencé à arroser la terre, Olivier Giroud, pour que ça pousse.
On a commencé à planter les bonnes graines, la graine, pour après avoir des bases un peu plus solides. Mais oui, quand on est enfant, on découvre un peu la vie de Jésus sous forme de jeu, c'est ludique. Et aussi, j'adorais et j'adore toujours assister au temps de chant, de louange.
Ah oui, la louange.
Tout ce qui est rendre grâce, louer le Seigneur et aussi gospel. J'ai un petit regret aux États-Unis de ne pas avoir été dans une église évangélique où j'aurais pu assister à ça. Mais je le ferai dans l'avenir. Parce que pour moi, c'est ça aussi, c'est de témoigner son amour pour le Seigneur avec des frères et sœurs dans la louange et toujours dans le partage, la joie, la bonne humeur et la bienveillance. Et donc moi-même, au fur et à mesure des années, j'ai grandi avec ma maman qui m'emmenait après à Ebens. On passe un peu plus du côté de Grenoble, Ebens ou Ebens pour ceux qui connaissent. Et donc, j'ai fréquenté pas mal cette église jusqu'à ce que, après à 12-13 ans, où je ne pouvais plus vraiment y aller tous les dimanches parce que j'avais des matchs le dimanche.
Ah oui, ces fameux matchs le dimanche, c'est un peu plus compliqué. Après, alors, comment on s'organise, Olivier ?
ça n'a pas été facile, mais...
Notamment dans la vie de footballeur, parce que Est-ce que vous arriviez à prier à Clairefontaine? Est-ce que quand il y a des matchs, les décalages, comment vous faites pour justement avoir cette vie spirituelle qui a été vraiment extrêmement importante pour vous, et notamment dans la réussite de votre carrière, pour prendre du recul et pour être apaisé?
Alors déjà, on peut prier partout, n'importe où, mais dans un lieu calme. Après, c'est sûr qu'en ayant eu les matchs le dimanche, à partir de cet âge-là, c'était moins évident d'aller au culte. Mais après, au fil des années, j'ai rencontré donc d'abord Joël Thibault, qui est aussi un aumônier sportif aussi, et qui lui, donc que j'avais rencontré, il me semble, avant l'Euro 2016 à Clairefontaine déjà. Jean-Luc m'a été donc conseillé par Joël, qui m'a présenté Jean-Luc, qui officie à Londres, et on était presque voisins, c'est ça, l'église Saint-Barnabas pour le French Connect. Et donc j'y suis allé. Ouais, j'y suis allé quelques fois et j'ai retrouvé cette convivialité, cette chaleur que l'on peut retrouver lors des cultes évangéliques. Bien sûr, il y a aussi le fait d'étudier la parole, l'évangile avec Jean-Luc régulièrement toutes les semaines, et aussi de se réunir avec des frères. Je dis des frères et pas des frères et sœurs, parce que c'est vrai qu'on est une band of brothers, comme bien nommé. Il pourrait y avoir des dames aussi, mais il se trouve qu'on avait créé ça pendant le Covid, où on a fait un petit parcours alpha, parce que j'avais aussi invité des amis.
Ah oui, parcours alpha, ça c'est quand même quelque chose de fort. Hein,
en ligne
en plus. Alors donc il faut quand même expliquer ce que c'est. Jean-Luc Sargent. Jean-Luc, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le parcours alpha aux auditeurs d'Europe 1?
Parcours alpha, c'est un petit parcours qui pose quelques questions. Qui est Jésus? Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la Bible? Qui est l'Esprit Saint? Qu'est-ce que l'Église? Et qui se déroule sur 2 mois normalement dans une église, autour d'un repas, autour d'un thème. Des vidéos qui sont bien faites, comme une série Netflix, puis un groupe de discussion. C'est vraiment le questionnement qui réunit des gens de tous horizons. Et là, on l'a fait en ligne parce qu'effectivement, comme disait Olivier, pendant le Covid, on a basculé beaucoup de choses en ligne. On ne pouvait pas se réunir. Donc, on n'avait pas le repas, mais on avait le thème qui est Jésus, et on avait un groupe de discussion.
C'est pas grave, le repas, les sportifs, ils doivent manger des pâtes. Donc
C'est vrai que c'était une période compliquée, mais c'était... C'était très fort, et j'ai pu faire donc du coup découvrir la vie de Jésus, l'évangile à certains potes qui étaient curieux. Et c'est génial, et ce groupe existe toujours, continue à grandir.
C'est un des fruits positifs du Covid, c'est qu'on a pu continuer à se réunir chaque semaine. Quoi.
Donc Olivier Giroud, vous avez un groupe, vous étudiez l'évangile, et ce qui nous paraît assez incroyable, on a un évangile, tout à l'heure on va aller piocher des phrases dans le Nouveau Testament, mais c'est que cet évangile, vous l'étudiez, donc vous l'avez pratiquement lu, tout lu?
Alors, j'ai pas lu toute la Bible, mais j'ai lu les évangiles, les 4 évangiles, j'ai lu, on a fait les psaumes, on a fait les lettres de Paul aux Romains, aux Corinthiens, l'Apocalypse.
Ah oui, quand même.
Qui n'était pas le... pas mon préféré, mais bon.
On comprend.
Voilà.
Pas très gay.
Les actes, évidemment.
Samuel, de Samuel, la vie de David.
C'est vrai, oui, Genèse, David, évidemment.
Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Qu'est-ce que vous gardez de tout ça?
Tout est à garder. Tout est à garder. Après, il y a des passages qui forcément me parlent plus que d'autres et me plaisent plus que d'autres. Mais je dirais la vie de David, qui parle de berger, puis après guerrier, et puis après roi, un roi quelque part aussi imparfait, mais qui a été un exemple. Un exemple, voilà, pour beaucoup.
L'imperfection, c'est magnifique parce que Jésus ne choisit que des personnes imparfaites. Donc comme ça, ça rassure
tout le monde. On l'est tous. Ça rassure tout le monde.
Olivier Giraud, invité des athlètes de Dieu. Ça nous fait tellement plaisir parce que vous avez été, en tout cas en France, vous êtes l'un des premiers à avoir témoigné, à avoir affirmé votre foi. Et ça, c'est une belle responsabilité. Et j'aimerais vous demander, dans votre période de footballeur, on va un peu retracer votre carrière, mais à la lumière de l'Évangile, c'est cette période à Montpellier. Vous avez fait des rencontres importantes. Je pense à Loulou Nicolas, on a une grande pensée pour lui, évidemment, qui nous a quittés et qui est un personnage magnifique du football. Des joueurs aussi dans le vestiaire. Montpellier, jeune joueur, vous êtes devenu le meilleur buteur, vous avez gagné le championnat de France. Mmh. Ça a été un moment très important pour vous.
Oui, un moment très important où j'ai pris mon envol, où j'ai découvert un peu la Ligue 1. C'était pas écrit d'avance parce que j'aurais pu aller directement outre-Manche. Ça aurait été mon rêve. Et oui, à l'époque, il y avait le Celtic de Glasgow et Birmingham qui étaient intéressés. Mes agents m'avaient soufflé à l'oreille et Loulou Nicolas avait joué aussi évidemment un rôle très important quand il m'avait appelé. Il m'avait dit « Est-ce que tu veux pas laisser une trace de toi en Ligue 1 ?» Jouer au très haut niveau en France. Et c'est vrai que ça fait partie des choix que j'ai eu à faire, que j'ai dû prendre, des décisions importantes dans toute ma carrière, tout au long de ma carrière. Et celui-là a été important et s'est avéré payant, mais j'ai toujours aussi beaucoup prié pour prendre ces décisions.
Mais à 21 ans, quand vous êtes à Montpellier, entre 21 ans et 39 ans, la foi quand même a bien grandi.
Oh oui.
Mais ça, déjà, il y avait déjà un socle qui vous a permis de prendre les bonnes décisions.
Tout à fait. Un socle, un entourage qui est autour de moi, notamment aussi ma maman. On est tous très croyants dans la famille, mes frères et sœurs et mon père. Ça a été le début. Je lisais déjà à l'époque presque quotidiennement une petite pensée du jour un petit moment avec Jésus.
Merci Olivier d'être toujours ici avec nous depuis Wascal où on enregistre cette émission un jour de Saint-Patrick.
Pas mal
la Saint-Patrick. Ouais. Alors, c'est sûr que les sportifs, la Saint-Patrick, la référence à la bière avec modération. Évidemment.
Et à l'Irlande.
Et d'Irlande. Mais c'est quand même un très beau saint, Jean-Luc Sergent, qui est toujours évidemment avec nous. Et ben, c'est l'occasion, Olivier, de prendre l'avion. On est à Montpellier et on va arriver en Angleterre. Et là, l'Angleterre, ça a été incroyable puisque vous êtes devenu la star d'Arsenal. Ensuite, vous avez remporté la Ligue des Champions et c'est un rêve pour tout footballeur avec Chelsea. Mm-hmm. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre foi? C'est-à-dire, est-ce qu'il est plus facile de témoigner, de parler de sa foi en Angleterre, parce que c'est un petit peu différent. Il y a des anglicans, on est avec Jean-Luc qui est pasteur anglican. Est-ce que ça a un petit peu changé les choses?
Ouais, je dirais que dans les mœurs en Angleterre, dans la culture, il y a les chaplains dans les clubs. Donc ils sont dans certains clubs, il y avait pas mal de pasteurs hein, vraiment de qui officiaient au sein du vestiaire du groupe et ça se perd un petit peu. Mais à une certaine époque, tu avais un endroit aussi où tu pouvais prier. Et d'ailleurs, j'avais prié à Los Angeles avec nos adversaires, certains mecs qui étaient chrétiens.
Incroyable.
Ouais, c'était une super expérience. J'avais jamais fait. On avait prié avec des mecs de mon équipe et il y en avait deux, trois qui étaient aussi chrétiens et cinq ou six joueurs, même sept joueurs, s'étaient retrouvés à une dizaine à prier avant le match alors qu'on allait s'affronter. Donc, l'esprit fraternel, bienveillance, que tout se passe dans les meilleures conditions et on a prié les uns pour les autres et remercié le Seigneur de nous réunir.
Et le match s'est bien passé.
Le match s'est super bien passé.
Vous avez marqué un but?
Non, mais du moins le match s'est passé sous les meilleurs auspices. Mais non, en Angleterre, oui, c'est là aussi. Après, j'ai rencontré Jean-Luc et je me souviens, il y avait eu la une, le 33 ans, l'âge du Christ.
Ouais, il y avait le magazine.
Le magazine, ouais. Quel magazine?
Et édition première partie qui faisait
Jésus, c'est le magazine.
C'est simple ça. Ah oui, ouais, vous avez fait la une de Jésus, c'est vrai. Oui, oui,
ouais.
Oui, je me souviens très bien.
Une belle une et tout, j'avais été très.
Mais vous aviez le look, vous avez jamais dit que vous aviez un peu le look.
Ouais, mais il faut que je laisse pousser un peu plus la barbe, mais les cheveux.
Mais vous lui ressemblez à tout point de vue, Olivier. Je sais pas s'il était fan de foot à l'époque, Jésus devait pas faire beaucoup de football, mais en tout cas, c'était un marcheur. Il a fait beaucoup de sport, Jésus.
Ah bon ?
Eh ben, il a marché.
Ah oui, oui,
c'est
oui, oui, d'accord. Marcher, oui, notamment
montagne.
Jours dans la montagne. Ouais, dans la montagne et aussi dans le désert. Mais oui, il parcourait énormément de régions pour aller au devant de ses fidèles.
Alors, on va revenir. On a un petit peu, on va dire, souri avec cette. Avec ce que vous nous avez raconté sur Jésus, grand sportif. D'ailleurs, Jean-Paul II était un athlète de Dieu, grand pape. Le sport est quelque chose que nous valorisons beaucoup dans la foi. C'est extrêmement important d'avoir un esprit sain et un corps sain. Mmh. On est en Angleterre et là, votre vie, Olivier Giroud, va changer parce que vous allez devenir une star. Comment on reste les pieds sur terre, on garde les pieds sur terre, comment on continue de cultiver sa foi, comment on ne se perd pas alors qu'on sait que les tentations sont grandes et que c'est tout à fait humain, je veux dire, voilà.
Ouais. Alors, je pense que c'est avant tout une question d'éducation, des valeurs que m'ont transmis mes parents, et bien sûr qui sont aussi associées aux valeurs notre foi chrétienne. Aujourd'hui, ce sont sur les mêmes valeurs qui m'animent, qui me font avancer. C'est le respect, l'humilité, le travail. Et donc, c'est ce que aussi j'essaie d'inculquer à mes enfants. Et à partir du moment où tu as aussi un entourage qui sait te dire « Attention, là, tu t'éloignes un peu du sentier sur lequel tu dois te trouver, sur le droit chemin », c'est un bon équilibre et j'ai aussi une épouse qui est là pour faire la balance, mais je pense pas me mettre beaucoup éparpillé par rapport au succès qui ne m'a pas monté à la tête, mais c'est pas facile à gérer, ouais, surtout pour les plus jeunes.
Et c'est pour ça que là aujourd'hui vous témoignez et que vous êtes dans le vestiaire aussi quelqu'un qui reliait cette bonne parole, essayer de garder justement un peu de recul par rapport à tout ça.
Bien sûr, parce que ça peut aller très vite dans les deux sens. Quand on est sportif, il peut y avoir les blessures, les contre-performances. Et il faut toujours se rappeler, se souvenir d'où l'on vient, ce qu'il a fallu accomplir pour en arriver là. Et le travail, toujours pareil, mais rester positif, quoi qu'il advienne. Des difficultés, on en rencontre chacun tous les jours dans nos vies. Tout à chacun. C'est le plus important, c'est de rester calme et confiant, comme ce fameux verset que j'aime beaucoup, Ésaïe 30, verset 15. Voilà. Dans le calme et la confiance que sera ta force.
C'est Olivier qui me l'a appris, moi.
Non, c'est vrai, Jean-Luc Sergent.
Non, mais c'est celui-là, il me permet de me recentrer.
C'est dans le calme et la tempête que l'on aura.
Non, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force.
Ah oui, c'est beau ça. Ouais, c'est très très beau. Vous avez raison parce qu'il y en a des tempêtes dans la vie.
Des moments de doute.
Des moments de doute. Je voudrais qu'on choisisse, d'ailleurs, on en profite parce qu'on n'a pas choisi la deuxième bougie sur Europe 1 dans les athlètes de Dieu. Vous avez quatre bougies.
Voilà, on y est. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Alors,
2 Corinthiens 12. 10.
Oui, mais alors ça veut dire quoi ? Parce que elle n'est pas simple, celle-là, cette phrase.
Parce
que vous avez été quand même, honnêtement, Olivier, souvent très très fort.
Ah ouais, ouais.
Plus fort que les autres.
Ouais, mais ces moments de faiblesse, justement, nous rappellent que nous sommes humains et que nous avons nos forces et nos faiblesses, et que même dans les moments difficiles, c'est là aussi qu'il faut être fort et pour rebondir. Parce que je dis bien souvent, il y a deux solutions au doute et aux difficultés, c'est s'apitoyer sur son sort et chercher des excuses et regarder à droite ou à gauche, ou alors les affronter et en redevenir plus fort. J'aime beaucoup aussi citation de Nelson Mandela qui dit « Ne me jugez pas par mes succès, mais plutôt par combien de fois je suis tombé et je me suis relevé. »
Ah oui, voilà. Ça c'est beau.
Ça c'est beau.
Ah oui,
ouais, parce que aussi. C'est aussi là qu'on voit la force de caractère et aussi cette résilience.
Ah oui, c'est beau. Mm. Parce qu'effectivement, il y a Nelson Mandela qui est resté très longtemps en prison, qui était président sud-africain, qui a été un véritable homme de paix. Mm. C'est une très belle référence. Et d'ailleurs, c'est peut-être la figure qui vous inspire, Nelson Mandela. Est-ce que vous n'avez pas posé la question, mais ça fait partie des questions qu'on pose dans ce podcast. Est-ce que Nelson Mandela, c'est la figure ou est-ce que vous avez une autre figure aussi qui est importante pour vous?
Il fait partie des plus grand sage que ce monde ait pu voir naître. C'est Jésus. Moi, c'est Jésus. Voilà.
J'étais sûr de votre réponse.
Moi, c'est Jésus, un modèle de force, de courage, d'humilité, de bienveillance. Il y aurait tellement d'adjectifs, mais ouais, c'est à chaque fois que je lis la parole. Je suis impressionné par sa personnalité.
On parlait de ces moments de doute. Si on prend un petit exemple, je regardais dans votre saison Arsenal, le 16 septembre 2015-2016, enfin c'était en 2015, la saison 2015-2016, vous êtes expulsé contre Zagreb, votre équipe perd le match, la presse anglaise vous cible, vous faites un petit passage sur le banc de touche, vous perdez votre place de titulaire. Mmh. Comment vous avez vécu ce moment et quelle place a eu Jésus lorsque vous avez traversé cette tempête? Mais il y en a eu d'autres.
Oui, bien sûr, il y en a eu d'autres. Le football est un éternel recommencement. Chaque semaine, il faut se remettre en question. On peut être tout en haut de l'affiche, surtout quand on est attaquant. Et puis, certaines fois, quand on fait des petites boulettes, si je puis dire, des petites erreurs, des petits écarts, comme dans la vie de tous les jours. Ne sommes-nous pas imparfaits? Et donc, malheureusement, oui, j'ai pris quelques cartons rouges dans ma carrière.
Mais 4 seulement, j'ai vu.
Oui, et là, c'est
ça, 4 seulement.
Ouais, c'est
ça. Attendez, 4, c'est rien.
Ouais.
C'est peut-être trop.
Dont un où je n'ai pas fait exprès, où j'ai malheureusement blessé le joueur, mais il avait mis sa jambe en opposition. C'était Quentin Auton, je me souviens. J'avais pris ces nouvelles après, je m'étais allé. Je m'en étais voulu, mais c'était vraiment accidentel. Donc je suis là, c'était vraiment un accident. Après, il y a des fois où on perd un peu notre sang-froid et où ça nous rappelle qu'on est humain. Et combien même on essaye d'être bienveillant et d'avoir un esprit fair-play, et bah, des fois, il nous arrive de faire des erreurs. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'exemple qu'on veut montrer aux plus jeunes.
Il y a un carton rouge en particulier que vous regrettez. Alors celui-là, bon, vous n'y pouvez rien, mais est-ce qu'il y a un celui-là, alors vraiment, j'aurais pas dû.
À Zagreb, je crois que c'était 2 jaunes.
Ouais.
Donc c'est évitable.
Vous avez mis à chaque fois des défenses sur vos matchs.
Quand c'est 2 cartons, mais là il y a eu un rouge où je m'en suis voulu, où j'ai eu une réaction un peu impulsive, où je me suis relevé parce que le défenseur, c'était contre QPR, il me semble. Il m'a poussé contre le gardien où j'étais à pleine vitesse et en fait j'aurais pu me faire très mal. Et je me suis relevé pour lui dire mais qu'est-ce que tu fais quoi, tu dépasses les bornes.
Donc, je l'ai dit comme ça.
Je l'ai pas dit comme ça.
Oui.
Mais bon, pour être poli. Et du coup, je me suis approché de lui. Bon, après un petit peu trop de testostérone sur le moment. Et en fait, je me suis approché de lui. Et donc, nos fronts se touchent et il est tombé par terre. Et donc, jouer la Commedia dell'arte. Et donc, malheureusement, je n'ai pas mis de coup de tête, mais le fait d'avoir un peu. Devenu un peu trop proche de lui, il tombait par terre et a simulé un peu. Et bon, là, l'arbitre m'a mis rouge. Et là, je m'en suis voulu. Parce que j'ai laissé l'équipe à 10, mais on a quand même gagné le match. Donc, voilà. Mais je me suis promis quand même de plus. Le plus important, c'est pas de faire deux fois la même erreur.
Ouais, mais le Seigneur a dû jouer un rôle aussi là-dedans, j'imagine.
Il pardonne.
Ouais.
Il pardonne,
il faut
se repentir, il faut s'excuser, lui demander pardon et bien sûr que voilà, le Seigneur pardonne et encore une fois, on reste tout à fait imparfait.
On vous met aussi dans une drôle de marmite. Oui, mais on vous met dans une drôle de marmite aussi. Je veux dire, quand vous êtes avec un entraîneur qui vous, qui crie dessus en disant enfin, tu m'as gagné machin toute la semaine. Ouais. Vous arrivez, les supporters. Enfin, vous avez quand même tout est conditionné pour que
vous soyez sur 1000 votes branchés sur le secteur là.
Ouais. Bah, il faut être concentré hein. De toute façon il faut garder son sang-froid et des fois c'est pas forcément tout le temps le cas, mais on essaie d'être exemplaire du moins au quotidien et pour les plus jeunes qui nous regardent, mais voilà, après plus important c'est que les personnes que je croise dans la rue, notamment depuis que je suis rentré en France, me disent bravo pour tout ce que tu as réalisé dans ta carrière, mais surtout l'homme que tu es et les valeurs que tu dégages. Et pour ça, pour moi, ça vaut même encore plus que tout ce que les gens admirent de moi en tant que joueur de foot.
On a encore quelques bougies, deux bougies qui sont en face de nous. Enfin, on en a quatre, mais on en a déjà choisi deux. Donc, il faut encore en choisir deux, une maintenant. Est-ce que ce serait la rose, par exemple ?
Alors, la rose. Par ta victoire grandit son éclat. Psaume 20, verset 6. J'avais besoin d'aide, là.
Jean-Luc Sargent.
Ok, bah, peut-être à travers ce que tu fais, tu lui rends gloire. Par ta victoire, grandit son éclat, donc l'éclat de Dieu.
Ouais. Son visage, je suis le messager. Voilà, ouais, c'est un peu...
Force de témoignage, par votre attitude, par la façon dont vous jouez sur le terrain. Ouais. En tant qu'homme, forcément, il y a le Seigneur qui est là. Olivier Giroud. Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur aussi votre vie de famille, tout en restant évidemment très discret, c'est normal, c'est votre vie privée, mais vous êtes marié, vous avez plusieurs enfants.
Ouais.
Est-ce que mari et père, c'est votre plus beau trophée ?
Oui, alors avant de l'évoquer, pardon, ça me rappelle, maintenant que j'y suis, par ta victoire, grandit son éclat. À chaque fois que j'ai pu gagner, bon, la dernière, malheureusement, en date, c'était le Qatar en 2022, je faisais un t-shirt avec marqué un verset. Il est la vérité, le chemin et la vie.
Ouais, Romains 8.
Nous sommes plus que vainqueurs.
Et même pour le Qatar, tu l'avais. Parce que pendant la séance de tir au but, tu l'avais. Hein.
Le Qatar, j'avais mis.
Tu l'avais mis pendant la séance de tir au but. Ouais. C'est une photo que j'ai.
Et alors, c'est quoi cette histoire ? Racontez-nous. Vous avez un t-shirt.
C'est pour simplement.
En dessous le maillot ?
Oui, sous le maillot, et en fait, parce que je sais que ça va être très médiatisé, alors je ne fais jamais de prosélytisme ou quoi que ce soit, mais dès que je peux un peu mettre en avant, pour faire grandir son éclat parmi les joueurs du vestiaire, mais pas que, et le public qui nous regarde, j'essaye de transmettre un message qui me tient à cœur. Mmh. Et c'est aussi comme ça que je témoigne de ma foi.
Et ce t-shirt, vous l'avez eu souvent ? C'était à chaque fois, c'était quelque chose que...
Alors pour les finales en général, mais j'écrivais à chaque fois un verset différent.
Voilà. Il y en a eu des finales. Puisqu'il y a eu évidemment.
Du coup, il y en a qui ont été perdus. J'en ai perdu presque autant que j'en ai gagné. Du coup, il y a des fois où.
Vous en vouliez pas au Seigneur, à Jésus ?
Non, des fois on gagne, des fois on perd. Le plus important, c'est de tout donner.
Mais finalement, c'est même dans la défaite que c'est beau d'avoir un t-shirt où on dit.
On remercie quand même. On remercie quand même le Seigneur, même dans la défaite. Et ça, c'est pas facile.
Oui, c'est pour qu'on est sportif de haut niveau, ça n'a pas...
Quand on est sportif et compétiteur, mais on connaît, ça fait partie du jeu. Et on sait que des fois on gagne et des fois on apprend.
Je n'imagine pas Didier Deschamps. Vous lui dites, il faut remercier pour la défaite, lui qui est le gagnant, qui est formidable.
J'ai chopé une cravate.
Non, non.
Ouais, là, ça m'a...
Ça, je ne vais pas vous faire mal. Hein.
Non, mais...
On le salue, Didier Deschamps, qu'il est formidable.
C'est sûr que il y a des joueurs ou des compétiteurs, des personnes qui peuvent pas vraiment l'entendre, mais c'est quand on est chrétien, en tout cas, on veut que tout se passe dans le meilleur des états d'esprit, le meilleur état d'esprit sur le terrain, de façon bienveillante. Mais après, il y a aussi ce côté, c'est pas facile de conjuguer la compétition et aussi le fait d'être chrétien, donc.
On parlait du t-shirt, je voudrais qu'on parle des tatouages, parce que sur la peau, il y a aussi des choses qui sont décrites.
Ouais.
Oui, avec le
Dominus regit me et nil mi derit, c'est le début du psaume 23,
c'est
qui me tient
Jean-Luc
à cœur.
Le psaume 23, le Seigneur est mon berger.
L'Éternel est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ouais. Je repose sur des herbes fraîches.
Il m'amène.
Les eaux paisibles, il me fait
reposer dans de verts pâturages, pardon. Il restaure mon âme, voilà.
Ensuite, il y a d'autres choses, non ?
Il y a d'autres choses. Alors là, bah, il y a d'autres tatouages, mais qui n'ont pas une signification sur ma foi. Ce sont, chaque symbole a une signification. C'est ouais. un polynésien. C'est comme j'étais à mon époque un peu Jones à Istres, où c'était la mode des tatouages. Donc j'ai le courage, la force, l'amour, l'amitié, voilà, ce genre de...
Maori, donc, c'est ça ?
Maori, oui.
Ah, c'est beau, ouais, la culture Maori. Ouais. Ouais. Polynésie, effectivement.
Dans une autre vie, je voulais être un rugbyman. Donc,
C'est vrai ? Ah ben, en Isère, enfin, dans votre...
Oui, ouais, ça joue au rugby, ouais. Ouais. Et puis, je suis un peu le parrain, entre guillemets, d'honneur des U20 que j'étais allé voir. De l'équipe de France qui ont fait le grand chelem, donc je leur passe un petit,
ah oui, le rugby,
petit coucou.
Merveilleux, merveilleux. Ouais. Et le ski, ça vous a jamais tenté ?
Le ski, bah, depuis tout petit, si, grandi sur des skis, mais bon, c'était soit le ski, soit le foot à un moment donné. Et vu que le foot, on peut en faire toute l'année, j'ai décidé de faire.
On pense à Alexis Pinturo qui a pris sa retraite.
Oui, tout à fait.
Je vous souhaite une retraite le plus tard possible, on posera la question, mais.
38
mais
ans, ouais.
C'est merveilleux, ça aussi. Un ouais. immense athlète comme vous.
Quel palmarès. Ouais, il est de pas loin de chez moi.
Ben oui, ouais. effectivement, Courchevel, ouais. c'est pas très loin. Ouais. De là, vous
on avez... était sur ma famille, pardon.
Alors, la famille, on y va. Mais c'est bien, vous me reprenez. Vous allez peut-être devenir journaliste, Olivier Giraud, vous avez le talent pour. Donc, la famille, est-ce que c'est votre plus beau trophée ?
Ah ouais. Ouais, c'est avec ma relation que j'ai avec Jésus, la famille, ça représente le socle, ce qui me donne... beaucoup de fierté, beaucoup de force au quotidien, voilà, d'énergie.
Et vous arrivez à leur inculquer, leur transmettre votre foi ?
Tout à fait. Je leur parle, des fois je leur lis des histoires sur la vie de Jésus. Ma fille, je lui ai téléchargé une application aussi avec des petits, la Bible pour enfants. C'est la vie de Jésus imagée pour son âge. J'aimerais qu'elle fasse le parcours Alpha pour les jeunes, qui est très très intéressant aussi. Mais vous savez comment c'est, hein, cet âge-là, il faut la relancer. Donc, mais je la lâche pas.
Elle a quel âge, pardon ?
Elle a 12 ans. D'accord. Elle a 12 ans. Les autres aussi, pareil. Ma petite, quand elle voit un arc-en-ciel, elle a dit « Ah, c'est Jésus ». Enfin, tout ce qu'elle voit, voilà, d'extraordinaire dans le ciel. Ça lui fait penser à Jésus. Je les ai emmenés voir le roi des rois, dessin animé sur la vie de Jésus aussi, raconté, vu par les yeux d'un enfant aussi. Je le conseille, c'est génial. Donc oui, j'espère après la carrière avoir du temps pour les emmener au culte et à l'église. Ça fait partie de mes priorités.
Est-ce que vous avez une Bible à la maison ? Est-ce qu'elle est à disposition ?
Elle est à disposition, mais évidemment, étant donné qu'on fait ça en one-to-one, notamment les week-ends des matchs, mais pas que aussi, quand je suis au mise au vert, au calme, quand il n'y a plus d'enfants, on se réunit à un petit moment avec Jean-Luc, qui je remercie pour sa disponibilité encore aujourd'hui. Et en fait, je pense que ça lui fait du bien lui aussi. De toute façon, de se replonger dans la parole, mais on l'étudie chaque semaine. Ouais.
Jean-Luc Sergent, c'est important d'accompagner les sportifs de haut niveau. Parce que parfois, ils sont seuls et qu'il y a toute une dimension psychologique, physique, physiologique qui est extrêmement présente. Là, on est sur le très, très haut niveau. En revanche, l'accompagnement spirituel, pas forcément proposé.
Non, pas en France en tout cas, comme disait Olivier, dans d'autres pays. Hein. Effectivement, il y a des aumôniers. Mais je pense que les sportifs de très haut niveau, ils ont découvert leur corps jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils connaissent mieux que nous tous les muscles, je ne sais pas combien on en a. Ils le travaillent, ils sont blessés, etc. Et donc, c'est vrai que... Et le mental, hein, puisqu'on le disait tout à l'heure, Olivier, c'est quelque chose d'important, évidemment, concentration. Et voilà, il y a le spirituel après, donc corps, âme, esprit. Et je pense que beaucoup de sportifs de haut niveau ont cette appétence, cette ouverture, cette soif de découvrir un petit peu plus la foi, en fait, la foi chrétienne qui nous concerne ici. Et je pense que voilà, c'est les hauts, les bas, les blessures, les moments de doute. Ils peuvent vraiment connecter avec justement la Bible, avec les évangiles, avec Jésus, avec la prière, etc. Donc cette dimension spirituelle, elle est presque, enfin je ne sais pas ce que tu en penses Olivier, mais elle devient presque naturelle, enfin supernaturellement naturelle. Parce que, en fait, le corps, vous le connaissez, le mental, vous le travaillez, mais
Le mental, c'est quand même une grosse partie du travail dans le sport de très haut niveau. Et prendre soin de... On l'a fait avec Génération 2018. Sur les problèmes des faiblesses mentales.
C'était remarquable.
Ouais. Et donc, être bien accompagné, spirituellement parlant, et aussi voilà, dans son quotidien, dans son sport, c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Et ça en fait partie, et moi, ça me fait beaucoup de bien.
Vous auriez aimé avoir un aumônier sur place à Clairefontaine? Enfin, c'est forcément pas possible, ouais. Mais...
Il y a quelques frères, notamment chez les plus jeunes, les nouveaux arrivants, qui sont aussi chrétiens en équipe de France. Donc, pourquoi pas un jour avoir un aumônier sportif ou un pasteur qui puisse passer pour les mecs qui sont demandeurs.
Est-ce que vous êtes arrivé en fait de fuguer de Clairefontaine et d'aller à l'église ou en tout cas de vous retrouver c'est compliqué, non?
La dernière fois que je suis allé dans une église, donc je suis allé dans celle Strasbourg. De Strasbourg. Ouais, l'église où
cathédrale.
Ouais, la cathédrale
de Strasbourg. Magnifique.
Et du coup, c'était sorti dans la presse le lendemain. Et vu qu'on avait perdu, le journaliste a été un peu taquin et a dit « Bon, la prochaine fois, Olivier Giroud allumera un plus grand cierge. » Parce qu'on avait perdu. Mais j'y étais allé au Brésil. On était allé aussi avec Yokabai, Pat Evra. On était quelques-uns. Ouais, on était allés dans une église.
Ouais. Ah ouais,
on était allés prier. Ouais. Dès que je peux, ouais.
Et vous partagez, vous arrivez à partager cette foi. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous avez prié à Los Angeles, ouais. Qui est quand même assez incroyable. Mais tout au long de votre carrière, notamment avec des personnalités qu'on connaît, hein, des Patrice Evra, des Johan Cabaye, que l'on salue, ouais. On les remercie aussi pour leur immense carrière. Mais de témoigner, de prier ensemble, d'arriver justement aussi à ce que ça sorte pas dans la presse, parce que ouais. C'est quand même important d'avoir cette intimité-là.
Oui. Bah, y a des joueurs qui sont plus pudiques par rapport à leur foi et qui ne sont pas forcément prêts ou disposés à tout de suite prier comme ça avec d'autres frères. Pas plus tard qu'hier, j'ai offert un autre fascicule plus que sportif que Joël m'avait donné. Sur les témoignages d'athlètes dont je suis.
C'est le même type de Bible.
Ouais. Ouais, et donc où il y a les évangiles et des témoignages de sportifs. Et c'est un peu comme ça que je transmets aussi et que je partage ma foi avec les plus jeunes et ceux qui sont demandeurs.
Et là, vous avez la dernière chose que j'ai à choisir.
Eh bien, ça tombe bien. Les derniers seront les premiers. Voilà.
Alors, il y a un problème avec vous, Olivier, c'est que vous avez été premier très souvent. Et ouais. J'ai pas envie que vous vous retrouviez dernier. C'est pas l'objectif.
Ouais. Les derniers seront les premiers.
L'humilité.
Ouais, c'est ça. C'est tout, même dans la victoire, avoir la décence de célébrer avec beaucoup d'humilité parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi moi-même perdu pas mal de finales. Donc. Avoir la victoire modeste et humble, c'est important. Oui.
On parlait de figures tout à l'heure, de Nelson Mandela, de Jésus, bien évidemment. Mmh. Est-ce qu'il y a un sportif, un athlète qui, dans le football, vous a marqué, peut-être dans la foi, mais aussi au-delà de la foi? Je me souviens évidemment qu'il y avait Zlatan Ibrahimovic, ouais. Qui était avec vous, qui est un personnage incroyable qu'on, ouais. Connaît. Bon, que par ces matchs de foot, mm-hmm. Et les médias, vous l'avez connu humainement parlant. Ouais. Et ça a l'air d'être quelqu'un d'assez impressionnant aussi, qui dégage quelque chose. Je crois même qu'il a un tatouage. Seul Dieu peut me juger.
Ouais.
Il est un peu mystique, ouais. Comme vous.
Only God can judge me. Mais celui-là, on le retrouve assez fréquemment. Il a raison. Je crois qu'il est catholique. Hein. Je crois qu'il est croyant. Mais... c'est pas le...
Pour... Est-ce qu'il avait dit au pape une fois? Il l'avait rencontré.
Il a rencontré le pape, Zlatan?
Quelque chose du genre, c'est la première fois que je rencontre le pape et vous, c'est la première fois que vous rencontrez Dieu.
Donc... il avait dû dire
une chose comme ça. Il a beaucoup d'humour. En fait, c'est tel qu'on le connaît aussi dans les médias ou dans ses punchlines. Mais c'est quelqu'un qui est d'une incroyable gentillesse et bienveillance au sein d'un vestiaire, avec l'exigence qu'on lui connaît. Mais c'est un très grand champion. Après, moi, c'est Kaka, à un moment donné,
ah oui.
À l'époque, parce que j'étais fan du Milan aussi, le grand Milan. Et lui a été l'un des premiers joueurs que j'ai vu lever les doigts au ciel. Et c'est un peu aussi à cause, grâce à lui, que je fais un peu la même chose. Et puis lui aussi était coutumier du fait de faire des messages sous son maillot. Et voilà, on sait que les Brésiliens, beaucoup d'entre eux sont chrétiens évangéliques. Donc c'est, ouais, Kaka, la classe.
Ah ben c'est la classe, Kaka. Ouais. Ballon d'or, Kaka.
Ah oui, s'il vous plaît.
Ouais, vous auriez pu être ballon d'or. C'est un regret pour vous.
Non, faut pas exagérer.
Oh, Olivier,
non, je fais pas partie de cette tranche de joueurs, mais je le vis très bien sans. Je suis heureux comme ça et aucun regret. En tout cas, c'est le plus important dans ta carrière, c'est de faire le maximum avec ce que tu as. C'est ce que le Seigneur m'a donné. Et je pense l'avoir fait. Et c'est pour ça que je suis.
C'est la parabole des talents, ça.
Je suis en paix.
C'est la parabole des talents.
Ouais.
On t'a confié quelque chose et tu l'as.
Ouais. Tu l'as exploité au maximum.
Ah, vous l'avez exploité au maximum, mais vous avez à la base quand même énormément de talents. Parce qu'il y a eu des critiques aussi qui étaient parfois injustes. C'est-à-dire quand on arrive à ce niveau-là, si on n'est pas doué balle au pied, je veux dire, même moi, si je m'entraîne 24 heures sans dormir...
Mais c'est le jeu. C'est le jeu qui est fait comme ça, mon ami. Mais c'est aussi bien, parce qu'à un moment donné, au début de ma carrière, je me souviens qu'on me disait que j'avais l'air un peu nonchalant. Et bon, c'était fait dû à ma taille, fait un peu élancé, je sais pas, les cheveux longs ou quoi. Mais à un moment donné, c'est bien parce qu'il a fallu un peu aller creuser, s'aguerrir, s'endurcir. Et les difficultés te forgent une personnalité, une force de caractère et aussi sont importantes pour te fortifier, tout simplement.
Est-ce que dans votre carrière, vous avez beaucoup pardonné ? Est-ce que le pardon... Parce que vous pardonnez pour vos fautes, mais est-ce que vous avez beaucoup pardonné pour des coéquipiers qui auraient pu vous blesser, des paroles qui ont dépassé peut-être leur pensée ?
Oui, carrément. Vous voulez savoir laquelle ?
Oui.
Ben, quand...
J'aimerais bien.
Quand Karim Benzema m'a comparé à un kart et lui une Formule 1, et je l'avais pris à la rigolade, et je pense que c'était le bon moyen de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et en fait, je lui ai pardonné, quoi. Voilà, et je ne voulais pas en rajouter ou surenchérir. Comme on dit, après, la vérité du terrain parle pour soi-même. Donc, je ne suis pas du genre à envoyer des punchlines à travers les réseaux sociaux ou les médias. Quand bien même une fois, un quotidien m'avait fait passer pour ce que je n'étais pas, mais à mes dépens, j'avais appris qu'il fallait faire attention à la formulation et des fois... On prenait quelque chose hors contexte et voilà, quand je disais que je voulais être numéro 1 en équipe de France, alors que j'avais pas vraiment dit ça, j'avais dit que je souhaitais jouer, évidemment, on souhaite tous jouer, avoir du temps de jeu et jouer titulaire.
Ah oui.
Mais je ne revendiquais pas une place de numéro 1 comme ça. Bref, on apprend de ses erreurs, mais surtout en com. Et je pense que voilà, quelque part, je lui ai évidemment pardonné à Karim et puis. On s'est revu après et je n'en ai pas tenu rigueur. Je pense qu'il était aussi dans un contexte où voilà, il était un peu exposé. Il fallait qu'il balance. Donc, ça fait partie du jeu, mais je pense que c'était bien de ne pas se rabaisser à rentrer dans le jeu. Et je lui ai pardonné. Ouais.
C'est
comme
très
j'ai
beau.
Dû pardonner à d'autres... coéquipiers ou adversaires qui n'ont pas été cool. Donc, ouais, voilà.
Qui vous ont blessé,
ouais.
qui n'ont pas été justes,
voilà.
Qui ont simulé, bien sûr. Et c'est vrai, alors avec certains journalistes, quand c'est arrivé cet épisode,
ouais.
Évidemment, on a fait beaucoup couler d'encre, mm-hmm. On a tous parlé. On s'était imaginé à un moment donné que vous arriviez en karting à Clairefontaine. On s'est dit, il est capable de ça.
Il y avait eu tout un contexte, ouais, après le fait que Karim ne soit pas en équipe de France, qu'on m'avait... pour ne pas revenir dans les détails, mais un peu
reprocher d'avoir pris sa place, donc alors que bon, j'étais là et je faisais mon boulot. Non, c'était une période pas facile. Il a fallu avoir les reins solides et s'appuyer sur mon berger, qui était là pour veiller sur moi, et puis mon entourage, ma famille, mes amis, mes proches qui étaient là pour me soutenir. Et après, à partir du moment où tu as l'esprit tranquille et tu es en paix, c'est plus facile de s'exprimer naturellement sur le terrain et de faire et donner du meilleur de soi-même.
On dit souvent, je parle sous le contrôle de Jean-Luc, quand on rencontre des personnes, en l'occurrence, on parlait de Karim Benzema, ce sont souvent des rencontres voulues par le Seigneur. Et donc, si vous l'avez côtoyé, au-delà du milieu professionnel, ce que vous avez fait là est
Moi, j'aimais beaucoup jouer avec lui, en plus, sur le terrain. J'aimais beaucoup jouer avec lui. Et en fait, je pense que c'était un peu écrit, en fait, à un moment donné, que je sois remis en question, contesté. C'est ce qui m'a permis aussi de montrer ma résilience, ma force de caractère. Ça m'a permis aussi de toujours vouloir donner plus et démontrer que j'avais bien ma place. J'avais des potes qui me disaient c'est bien, t'as fait fermer des bouches. À un moment donné, c'était un peu épuisant, mais c'est... C'est moi. Comme le disait Lolo Koscielny aussi à l'époque, je ne suis jamais aussi meilleur que quand j'étais dos au mur. Il avait un peu imagé ça comme ça. Mais c'est bien, c'est une belle histoire.
Olivier Giroud, sur Europe 1 dans Les Athlètes de Dieu, est-ce qu'au moment de tirer un pénalty ou dans un match, vous avez le temps de vous adresser au Seigneur ?
Oui, quelques mots, surtout les pénaltys. On demande un peu d'aide et après, c'est un geste technique. Il faut faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça reste toi qui vas tirer le pénalty, mais si tu peux avoir aussi un petit coup de pouce de... là-haut du ciel, tu le demandes avant, rapidement. Mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi dans des moments un peu difficiles de prier et lever mes yeux vers le ciel et lui demander son aide. Parce qu'il est toujours là, quoi qu'il arrive.
Vous soulevez la Coupe du Monde en 2018. Moment extraordinaire. Alors moi, j'ai eu cette chance-là, grâce à vous, de pouvoir être dans le stade et de le commenter. Et ça restera un moment professionnel et humain extraordinaire. Parce que vous avez une très belle équipe. Ensuite, je me souviens, d'ailleurs, dans le stade Loujniki, vos coéquipiers étaient très, très généreux. Ils venaient avec le trophée, nous le présenter. On est passé 5 semaines en Russie. Nous aussi, on a vécu une aventure folle. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous avez senti que le Seigneur était là ? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est fou ce que je vis ?
Ah bah oui, là, dans l'espace d'un temps... Alors moi, j'ai pu mesurer un peu l'exploit qu'on venait de réaliser parce que j'étais sorti 20 minutes avant la fin du match et je disais à NJ, Kanté, à côté, à Flo, Thauvin et tout, on va devenir champion du monde, c'est un truc de fou. Et après, là, lors du coup de sifflet final, j'ai couru vers la surface, je me suis jeté au sol et là, j'en ai chialé, quoi. Et là, t'as des flashs qui reviennent de quand t'es petit, tout ce que t'as traversé et tout. Là, j'en ai encore des frissons, quoi. Donc, c'est des moments indescriptibles tellement... tu peux pas expliquer l'émotion que tu ressens à ce moment-là. C'est un rêve de gosse. C'est le travail de toute une carrière. C'est ce que tu fais... au quotidien, tu t'entraînes, tu te lèves tous les matins pour ça. T'es sur le toit du monde. Donc, bien sûr, bien en dessous du Seigneur. Mais en tout cas, tu es en pleine extase, quoi.
À part Dieu, il n'y a rien de mieux
non.
que d'être champion du monde. Parents, évidemment. Mais...
Moi, j'ai eu la chance de me rapprocher sur le plan sportif de ce qui fait de mieux. Et donc, d'avoir ce sentiment de plénitude à ce moment-là. Après la mort, c'est ce qui nous attend. Je suis impatient d'y être.
Dis donc, c'est le plus tard possible.
évidemment.
Mais c'est vrai que ce sont des moments incroyables. Et puis quand on revient en arrière, vous avez peut-être regardé cette Coupe du Monde 98.
Ouais.
Gamin,
bien sûr.
Vous dites j'en rêve, mais je sais que ça va être pratiquement mission impossible. Il y a tellement de grands joueurs, vous avez côtoyé, on parlait tout à l'heure de Zlatan, qui rêvent d'être champion du monde, et qui ne sont pas champions du monde. Vous l'êtes.
Bien sûr, moi c'était un rêve de gosse, je l'avais dit à mes potes qui me l'avaient rappelé la veille de la finale 2018. Un jour tu nous avais dit, quand on a gagné en 98, un jour je serai champion du monde, mais j'imagine que beaucoup d'enfants avaient dit ça. Mais ça m'était sorti de la tête et lui ça l'avait marqué. Et j'ai eu la chance, moi, à mon tour de la gagner, donc je suis tellement reconnaissant d'avoir vécu et pu faire vivre aussi ce genre d'émotion à mes proches, à ma famille, tous les Français.
Vous avez parlé de larmes de joie. Il y a eu des larmes aussi parfois de tristesse.
Bien sûr. Que 2016, deux ans avant.
L'euro.
Deux ans avant, je ne suis pas du style à montrer mes émotions comme ça, mais en fait, je vais me cacher un peu là derrière. Le fait de voir certains potes en larmes, ça m'a vraiment touché. Et là, j'avais lâché les émotions et tout était ressorti, et surtout qu'on était chez nous, quoi. Donc, mais c'est ce qui a un peu aussi créé cet esprit de revanche, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, cette envie de rebondir deux ans après. Ce groupe qui avait souffert et qui s'est souvenu de la peine, la souffrance de ce jour-là.
Ouais, et puis je me souviens du match à Marseille. Vous battez les
Allemands.
Et je vois Didier Deschamps et qui vous dit, en étant en zone d'interview, dit les gars, il faut vite rentrer, il faut pas perdre de temps. Et peut-être une pression plus importante, alors que j'ai senti, moi, mais alors c'est de l'extérieur, qu'à la finale en Russie, vous étiez finalement plus détendu.
Ouais.
Tout était bien en place.
Surtout, on avait, pour parler de un peu côté terrain, on avait beaucoup plus d'expérience, pas mal de joueurs qui avaient joué cette finale de 2016 et qui avaient accumulé de l'expérience, qui est chose très importante pour jouer ce genre d'événement. T'as intérêt à faire abstraction de tout le contexte et l'atmosphère et tous ces gens qui regardent 1,5 milliard, je crois, la dernière Coupe du Monde de téléspectateurs, donc... Si tu penses à ça, oui, tu vas être crispé. Hein. Donc, il faut se détendre, être relâché. Et après, bon, les finales, ça tourne bien, ça tourne mal. Ça a été notre tour. Voilà.
Olivier Giroud sur Europe 1, quelques questions avant de malheureusement devoir vous quitter dans cette émission que nous présentons avec Oli Games. Quel est votre chant préféré? On pose la question à nos invités.
Le chant de bénédiction que chaque année, plusieurs chanteurs... mettre en lumière un passage de la Bible, et c'est magnifique. Je vous invite à l'écouter. Et aussi, c'est quel groupe qui chante Praise the Lord?
Un nouveau chant là qui vient de sortir, Elevation Church.
Elevation Church.
Praise
the Lord. Et il y a un super tempo, il y a une super énergie. Et des fois, souvent même, j'écoute ça avant le match.
Ah, génial.
Ah ouais.
Un chant religieux avant la...
Alors, il y a deux choses. Il y a quand je lis la parole, je me mets « Now we are free » de Gladiator, parce que c'est mon film préféré. Et il y a aussi « Praise the Lord » qui me donne un peu la pêche.
Bon, ça, c'est super. Et c'est vrai qu'on a des beaux groupes aussi en France, avec Glorious et avec d'autres qui sont formidables.
Ouais, mais ils chantent sur la bénédiction. Glorious, enfin, dans la bénédiction, il y a Glorious, il y a tous les chanteurs.
D'accord.
C'est un collectif,
c'est un collectif.
Les Restos du Cœur.
C'est plusieurs chanteurs.
C'est tous les chanteurs, toutes les églises.
Ah, mais c'est formidable. Eh ben, on va le mettre dans la voiture pour revenir à Paris, puisque nous sommes à Wascal. Est-ce que, quand vous avez pris la décision, malheureusement, d'arrêter les Bleus, je dis malheureusement parce que les supporters aimeraient bien que vous reveniez de France, malheureusement, je ne pense pas que ça sera le cas, parce que la décision, vous l'avez dit, vous la tiendrez, elle est prise. Le Seigneur a joué un rôle? Vous n'avez pas pris une décision à la GGR.
Toute décision, encore une fois, que j'ai pris dans ma carrière, que j'ai eu à prendre, je l'ai faite en demandant au Seigneur de me conseiller, de m'orienter, de montrer des signes sur savoir si c'était la bonne décision ou pas, et aussi d'en avoir parlé avec mes proches.
A envoyé un signe ou pas? Pardon d'être indiscret, mais est-ce que le Seigneur a été clair?
Oui, et pour moi, c'était aussi le bon moment de passer le témoin à une nouvelle génération qui arrivait. C'était important pour moi
De rejouer un match après cette Coupe du Monde, refaire un an et demi après cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui avait été quand même une immense peine, frustration. Et le fait de se dire, bon, allez, je pousse jusqu'en 2024, ça coïncidait aussi avec mon contrat, la fin de mon contrat à Milan. Et j'estime que c'était le bon moment d'arrêter le très haut niveau en même temps, l'équipe de France et Milan.
Et puis, il y aura la décision d'arrêter. Alors là, c'est encore trop tôt.
C'est pareil, ouais. C'est pareil, je prie déjà aussi pour ça, pour savoir quelle sera la meilleure décision. Mais d'un côté aussi, j'ai répété tout au long de ma carrière que je voulais jouer jusqu'à ce que mon corps me le permette, parce que je suis tellement passionné et je sais qu'après, ça me manquera cruellement. Mais on verra si toutes les conditions sont réunies pour continuer ou pas. Mais le jour où j'arrêterai, je serai prêt pour l'après. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt en tant qu'amoureux et passionné de ce sport. Nous, les joueurs, on n'est jamais vraiment prêt à arrêter. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose ou qu'il y ait vraiment une prise de décision, qu'il y ait un élément déclencheur qui fait que... Mais voilà. Vous avez joué au foot aussi, j'imagine qu'on a envie d'en profiter jusqu'au bout, quoi.
Toujours. Même avec les enfants, même toujours faire du football.
Ah bah oui,
toujours faire
après,
du sport.
Après,
c'est merveilleux.
Ce sera à eux que je passerai le relais. Ouais.
Avec
je les emmène déjà trois fois par semaine aux entraînements, plus les week-ends.
Il y en a un qui est doué, je crois. Hein.
Enfin, ouais, il y en a deux. Ouais. Il y en a deux. J'ai pas envie de dire l'un plus que l'autre, mais non, les deux. Les deux sont piqués aussi, mais après, je laisse s'amuser, c'est le plus important.
Merci beaucoup Olivier Giroud. Je vais avoir une dernière question à vous poser. On va remercier Jean-Luc Sergent, aumônier de sportifs, pour ce moment qui était incroyable. Et vous allez rester parce qu'on va terminer de façon un peu inhabituelle cette émission. Mais juste avant, Olivier, à quelle personne vous souhaiteriez transmettre le flambeau? Est-ce que vous pensez à un sportif, un chrétien qui aimerait peut-être parler de sa foi, témoigner, ou en tout cas, pas forcément donner nom, hein, mais est-ce que vous voyez une personne? Voilà.
Ouais, j'ai ma petite idée en tête, notamment en équipe de France. Donc, encore une fois, il y en a plusieurs, des frères, mais je pense que c'est bien, donc déjà dans mon club aussi, mais c'est bien aussi qu'en équipe de France, il y a des frères qui prennent aussi le relais, ils sont plusieurs et c'est important d'en parler et puis d'en être fier, encore une fois sans faire de prosélytisme ou quoi que ce soit, mais on est quand même là pour annoncer la bonne nouvelle.
Merci Olivier Giroud. Est-ce qu'avec Jean-Luc Sergent, on peut terminer par une petite prière, par quelque chose pour bénir les auditeurs d'Europe 1, pour bénir les personnes qui vont nous écouter dans cette émission aussi en podcast? Olivier, je sais pas si vous avez, c'est pas facile du tout. On reprend peut-être une phrase de l'Évangile. Ça peut être aussi ça.
Ou alors Notre Père.
Ouais, très bien Olivier. Ben voilà, ça produit du fruit du travail pour moi.
Allez, ensemble.
Yes.
Alors,
prions ensemble. Notre
Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, pour les siècles et les siècles, le règne, la puissance et la gloire.
Amen. Amen. Tout simplement.
Bah, c'était une très belle prière. C'est la prière que Jésus a apprise à ses apôtres. Donc c'est la prière la plus simple, mais la plus belle. Merci infiniment pour ce Notre Père qui va toucher beaucoup de personnes. Soyez bénis, hein, tous ceux qui nous écoutaient. Merci infiniment pour votre témoignage et puis pour votre vie qui est absolument merveilleuse, qui est le fruit évidemment aussi de votre relation à Jésus. Merci Olivier Giroud.
Merci à vous.
Et puis on se retrouve peut-être, j'espère que vous serez encore footballeur dans quelques années. Prenez votre retraite le plus tard possible. Hein. Toujours avec le Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Merci Olivier Giroud.
Vous venez d'écouter un épisode d'Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1.